3A246. Chronique de la Maison de la Mémoire.
Bonjour, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'aviation à Centrafrique. D'aviation au travers en fait de cartes postales. Alors ça peut paraître surprenant, mais si vous cherchez des cartes postales anciennes de Centrafrique, vous risquez de tomber sur un certain nombre où vous verrez des avions décoller, atterrir, stationner, voler, avec la mention Centrafrique, Aveyron. Donc c'est bien le nôtre, Centrafrique. À la Maison de la Mémoire, on en conserve 8 différentes, qui sont parfois légendées, Fête de l'aviation, le chant d'aviation, ou Jules Védrine qui fait ci, qui fait cela. Et alors le premier problème qu'on en rencontre avec celle-ci, mais les cartes postales en général, c'est le problème de la datation. Parce qu'en fait, elles ont rarement, pour pas dire jamais datées. Les seules qui soient datées, c'est quand elles correspondent vraiment à un événement très précis. Donc elles sont jamais datées. Et là, c'est le cas pour à peu près toutes, sauf celles qui concernent Jules Védrine, où on voit indiquer les dates des 12, 13 et 14 juillet 1913. Par contre, pour les autres, il faut trouver d'autres systèmes, d'autres astuces pour arriver à fixer une date. Donc, comme je le disais, c'est souvent c'est un problème récurrent avec les cartes postales. Et parfois, les gens se servent du cachet de la poste pour les dater. Ça peut être une méthode, mais ça me semble assez hasardeux. Parce qu'en fait, avant, faire des cartes postales, ça nécessitait quand même des moyens assez lourds et onéreux, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, on n'en éditait pas tous les jours. Et en fait, voilà, j'ai trouvé par exemple l'exemple d'une carte postale qui représente l'église, comme il y en a pas mal. Et on en trouve une qui est tamponnée de 1912, mais on trouve exactement la même qui sera tamponnée de 1938. Donc ça fait quand même un certain écart. Du coup, on est obligé de trouver d'autres moyens, et pour ça, utiliser souvent les éléments du paysage, qui permet de donner au moins une fourchette de date un peu plus précise, en constatant la présence ou non de certains bâtiments dont on connaît exactement l'année de construction ou de réaménagement, ou bien parfois aussi avec les devantures ou les enseignes de magasins, parce qu'on sait qu'il existait entre telle période et telle autre. Et parfois, alors peut-être, pourquoi pas, hein, pour les plus aguerris, utiliser les vêtements ou les modèles de voitures. Il y en a certains qui essayent. Ça peut être une méthode. Alors pour celles qui nous intéressent, en l'occurrence l'aviation, donc comme elles ne sont pas toutes datées et que les ressemblances elles sont pas forcément très flagrantes, on pourrait se dire qu'elles concernent toutes le même événement, donc celui de 1913, et en fait c'est pas du tout le cas, à peu de choses près, mais les motivations n'étaient pas les mêmes. Et la seule chose qui nous a permis de nous en apercevoir en fait, c'est un témoignage. Le témoignage d'un monsieur qui s'appelait Georges Arlabosse, qui était assez connu à Centrafrique, et qui était né en 1902. Donc il avait une dizaine d'années quand ses cartes postales ont été prises. Et chez lui, ça va déclencher une véritable passion pour l'aviation. On y reviendra. Alors grâce à lui, on apprend comment sont arrivés les avions à Centrafrique. En fait, c'est grâce à 5 Centrafricains qui étaient passionnés d'aviation, et qu'on désignait comme le comité des 5. Et qui était donc passionné d'aviation et qui avait envie d'organiser des fêtes de l'aviation en faisant venir des pilotes très connus de l'époque pour faire des démonstrations de vol et de voltige. Et parmi eux, en fait, on retrouve des professions diverses. Il y a un marchand de chaussures, un industriel, un marchand de tissus, un quincailler et un avoué, donc un juriste. Et alors, ce qui est assez étonnant avec ces cartes postales, donc c'est déjà voir des avions à Centrafrique à cette époque-là, c'est assez surprenant. Et ça l'est d'autant plus que les premiers vols sur avions à moteur en France, ils dataient de 1906. Donc juste vraiment quelques années avant. Et on ne s'attendrait pas forcément à ce qu'ils arrivent jusqu'au fin fond de l'Aveyron aussi rapidement. Grâce donc au témoignage de Georges Arlabosse, et aussi de quelques archives qui le confirment, on peut à peu près savoir à quelles occasions et où se sont déroulés ces spectacles, parce que c'était de vrais spectacles. Donc le premier, c'est en 1911, Là, ils font venir un pilote de Montpellier qui s'appelait Charles Amand. Et ils utilisent un terrain en tant que piste d'atterrissage et de décollage, on va dire, qui était situé à La Cazotte. Donc aujourd'hui, ça serait dans la zone des cases, au bord de la Sorgue, juste après l'abattoir. La première manifestation, le premier spectacle, c'est en 1911. Mais de suite, ça suscite l'engouement de la population. Du coup, l'année d'après, ils décident d'en organiser un autre. Cette fois, ils font venir un autre pilote célèbre qui s'appelait Chevalier. Donc pour ce spectacle, ils décident de changer de terrain et donc vont à la Capelle Basse sur le terrain qui aujourd'hui est le stade de Villers. À nouveau, c'est un grand succès et on le voit d'ailleurs sur les cartes postales, on voit la foule qui s'amasse tout autour et on voit même sur la colline qui est en face, on voit même des petits points blancs, des petits points noirs qui en fait sont des gens. Et qui s'était installé là pour admirer le spectacle. Face à ce succès, en 1913, il y a un nouveau meeting qui est organisé, et qui est organisé au moment des fêtes de Sainte-Afrique, des fêtes patriotiques et religieuses, parce que c'est l'occasion aussi de l'inauguration de la nouvelle église. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'ils font venir Jules Védrine, qui était déjà assez célèbre, parce qu'il avait remporté une course entre Paris et Madrid, et puis qui sera encore plus célèbre par la suite, parce qu'il sera pilote de chasse, on va dire, pendant la Première Guerre mondiale, et il remportera pas mal de succès. Et il fera notamment beaucoup parler de lui, parce qu'en 1919, il s'est posé sur le toit des Galeries Lafayette à Paris. Et là, on retrouve pas mal de cartes postales, donc à l'occasion de cet événement, où on voit Jules Védrine qui décolle, qui atterrit, qui fait le lâcher tout. Alors ça, apparemment, c'est une figure. Par la suite, en fait, on ne trouve plus de cartes ni de documents qui reparlent de pareils spectacles à Sainte-Afrique. Mais le témoignage donc, de Georges Arlabosse qu'on a retrouvé donne quand même des prolongements à cette aventure de l'aviation à Sainte-Afrique. Parce qu'en fait, il nous apprend que lui, avec quelques amis, ils ont organisé d'autres meetings dans les années 20, donc aux alentours de 25-26 à peu près, puis encore en 1929, et à l'occasion de ce meeting d'ailleurs, pour l'anecdote, en fait Émile Borel, qui donc était à Sainte-Afrique à ce moment-là, a embarqué dans un avion et a survolé toute la ville. Donc l'année d'après, en 1930, Georges Arlabosse avec ses amis fondent le premier aéroclub de l'Aveyron, qui s'appelait l'Aéroclub d'Écosse, en utilisant des planeurs, jusqu'en 1933, et après l'année d'après, en 1934, ils achètent un premier avion. Après, par la suite, le club va changer de nom successivement, et en fait, jusqu'en 1947, où il devient l'aéroclub de Millau-Larzac, donc celui qu'on peut connaître encore aujourd'hui. Et en fait, ce témoignage, juste pareil pour l'anecdote et le souvenir, on va dire, nous a permis de rencontrer, on va dire, deux personnages, un qui était de Sainte-Afrique, un autre qui a longtemps vécu à Sainte-Afrique, et qui sont liés à l'aviation, parce qu'en fait, c'était des ingénieurs de l'École nationale d'aéronautique, et ce sont eux qui ont fabriqué le premier avion qui a franchi le mur du son, et même le premier en 29 qui a traversé l'Atlantique. Et ils s'appelaient Jean Galtier et Monsieur Ray. Et je dois avouer qu'on ne les connaissait pas jusque-là. Mais maintenant, c'est chose faite. Donc encore une fois, en fait, on voit l'importance de compléter et puis de croiser les sources. De pas seulement se contenter des cartes postales où on aurait pu louper pas mal de choses. Et en même temps, de l'intérêt aussi, en croisant les sources, ça permet de révéler certains moments particuliers de la vie d'une ville, et même parfois des gens qui ont fait des choses un peu hors de l'ordinaire, mais dont on n'a pas forcément le souvenir.
Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain, Florian Boulet, Sophie Roumégousse, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.